Le Seigneur nous permet de reprendre notre institut biblique selon le modèle ancien que nous avions dû abandonner à cause des travaux au sous-sol d'abord et ensuite à cause de l'épidémie du fameux coronavirus. Mais aujourd'hui donc nous pouvons reprendre et nous nous en réjouissons tous ensemble. J'introduirai l'exposé d'aujourd'hui par la lecture de quelques versets qui ne sont pas pris du Cantique des Cantiques, mais du livre des Proverbes. Ce sont sans doute dans toute la Bible les versets qui sont les plus proches du Cantique des Cantiques, en tout cas par le vocabulaire utilisé. C'est un premier marqueur qui est suffisamment preuve d'une affinité, d'un apparentement. Il s'agit donc dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, des versets 15 à 20. Il s'agit d'un passage qui prend place dans un discours avertissant contre le danger des courtisanes, de l'adultère, et l'auteur inspiré, Salomon peut-être, probablement, dit « Bois l'eau de ta propre citerne, celle qui coule de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dans les rues? Tes canaux d'irrigation doivent-ils couler sur les places? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle gracieuse, enivre-toi de ses seins en tout temps, sois sans cesse grisé par son amour. Pourquoi, mon fils, serais-tu grisé par une autre femme et étreindrais-tu la poitrine d'une inconnue ? » Voilà la parole d'exhortation qui se trouve au chapitre 5 des Proverbes, et qui a des affinités évidentes avec ce que nous lisons dans le Cantique des Cantiques. Je commencerai par un aveu d'un raté de mémoire. Quand j'ai choisi ce sujet pour notre rencontre aujourd'hui, et que je l'ai annoncé le 17 septembre, j'ai oublié que j'avais traité du Cantique des Cantiques dans des leçons d'institut biblique, il n'y a, à mes yeux en tout cas, pas si longtemps, un peu plus de 10 ans. Je me rappelais bien avoir parlé du Cantique des Cantiques, mais je pensais que c'était lors d'une prédication, donc forcément de manière très brève. Je n'ai cependant pas cru devoir changer mon sujet pour aujourd'hui. Et il y a deux raisons principales à cela. La première, c'est que si moi j'avais oublié, il y a bien des chances que parmi vous, ceux qui étaient là, il y a un peu plus de 10 ans, aient oublié aussi. Et d'autre part, le groupe se renouvelle. Et parmi vous, il y en a qui n'avaient pas entendu mes deux exposés antérieurs. Et deuxièmement, depuis 2011, le nouveau professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie évangélique, Cédric Eugène, à la fin de la première partie, la première phase de ses études, soutenu un mémoire de Master 2 de recherche sur le Cantique des Cantiques, sur sa structure en particulier, qui a fait des apports nouveaux. Et je compte donc vous en faire part. Donc, je vais tenir compte du fait que j'ai quand même parlé du Cantique des Cantiques et plus longuement qu'aujourd'hui. Et il y a 10 ans, je pense que vous pouvez, par trésor sonore ou je ne sais, aussi avoir accès à ces exposés antérieurs. Je vais en tenir compte en vous présentant tout spécialement les thèses de Cédric Eugène et en reprenant des points que j'avais touchés dans l'exposé plus panoramique du printemps 2011, de manière beaucoup plus développée, fouillé, mais en sélectionnant, j'en sélectionnerai trois. Je vais commencer par des rappels assez rapides de ce qui avait déjà été dit, mais j'amplifierai quelques éléments. Puis je parlerai donc de ce que Cédric Eugène a mis en lumière sur la structure du livre, et puis je reprendrai trois points principaux. J'espère que nous aurons le temps, dans les 60 minutes qui nous sont accordées, de traiter de tous ces points. Tout d'abord, donc, un rappel de données relativement générales. Le chant des chants, c'est la traduction la plus littérale, hein, le terme que nous traduisons le plus souvent cantique. C'est un terme très courant pour des chants profanes, aussi bien que des chants religieux. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, le chant des chants, c'est un superlatif, une manière de dire c'est le chant suprême, le chant par excellence, le plus beau des chants. Le chant des chants n'est pas un simple bouquet de poèmes qu'on pouvait dire ou chanter lors des fêtes nuptiales. Il y a, comme je vais le souligner, des ressemblances très marquantes entre les poèmes du Cantique des Cantiques et ce que les données du Moyen-Orient ancien ont révélé quant aux coutumes des fêtes nuptiales. Et il y a des similitudes avec les poèmes qui étaient chantés, des poèmes qui célébraient la beauté de la jeune mariée en particulier. On appelle ça, m'apparaît-il, même le wasp. Et des poèmes d'amour égyptiens. Donc, il y a des similitudes, mais elles ne suffisent pas à assimiler purement et simplement le Cantique des Cantiques à une simple collection de tels poèmes. Ce qui l'exclut en particulier, c'est la structure raffinée dont je vais vous rendre compte dans quelques instants. Mais il est vrai que ces similitudes nous interpellent. Alors, elles posent un problème très très général d'interprétation biblique. Quelle est la part que les connaissances que nous pouvons avoir du contexte de la culture du Moyen-Orient ancien, qui est le berceau des textes que nous avons dans l'Ancien Testament, quelle est la part que ces connaissances, qui ne viennent pas de la Bible, mais de l'histoire, de l'archéologie, doit tenir dans notre interprétation? Ce n'est pas si facile de régler la chose, il s'agit de discernement. Je n'y reviens pas, mais je signale ce point au passage. Il me semble que dans le cas du Cantique des Cantiques, il y a deux traits que nous apprennent les spécialistes de ces questions qui sont marquants dans les poèmes des fêtes nuptiales et qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques. Le jeune marié était très couramment, c'était vraiment la convention de ces poèmes, comparé à un roi. Donc c'est comme le roi de la journée, si vous voulez, le roi par son mariage, qu'il était fêté dans ces poèmes. Donc je pense que c'est le cas aussi dans le Cantique des Cantiques. Et le deuxième point est plus délicat à mentionner, mais je crois qu'il faut que je le fasse, hein, que ça fait partie de la droiture de mon exposé. Ces poèmes nous montrent que la sensibilité au langage érotique dans cette culture n'était pas tout à fait la même que la nôtre. Malgré ce que l'on considère comme l'ouverture des mœurs aujourd'hui, nous sommes parfois un peu gênés, même en dehors du monde évangélique, par une certaine crudité du langage lorsqu'il est question donc des attraits physiques et des mouvements de l'amour. Il semble bien que dans le monde de l'Ancien Testament, et ça se répercute dans le Cantique des Cantiques, il n'en ait pas été ainsi, et qu'il puisse y avoir des allusions qui, pour nous, quand même, ne passent pas si facilement, si vous voulez, en particulier dans une lecture religieuse. Il est difficile de déterminer exactement jusqu'où ça va. Et les interprètes ne sont pas tous d'accord. J'ai lu, moi, deux auteurs qui vont très très loin. Un auteur libéral qui s'appelle Marvin Pope, qui va vraiment très très loin. Trop loin, je pense. Mais il y a aussi le professeur juste retraité d'Ancien Testament à la faculté d'Aix-en-Provence, la faculté évangélique, réformée évangélique, appelée maintenant faculté Jean Calvin, M. Ronald Berger, qui a écrit un article où il va aussi assez loin. Donc, simplement, signaler ce point qui concerne l'interprétation du cantique, des cantiques. Alors, l'exégèse allégorique est une façon d'esquiver ce problème. Et il faut reconnaître qu'historiquement, c'est grâce à une exégèse allégorique où le marié Salomon et la bien-aimée représentent Dieu et soit le peuple d'Israël, soit l'Église. C'est grâce à cette exégèse que les résistances à l'inclusion dans le canon du Cantique des Cantiques ont pu être surmontées. Il y a en particulier le rôle de Rabbi Akiva au début du deuxième siècle de notre ère. Mais moi, je suis obligé de dire que cette exégèse allégorique ne peut pas tenir. C'est vraiment du n'importe quoi. Il suffit d'accumuler une documentation assez importante, comme l'a fait Marvin Pope, par exemple, sur l'exégèse allégorique, tout ce qui a pu être dit par des gens très, très célèbres au nom de l'exégèse allégorique pour se rendre compte que, voilà, non, ce n'est pas possible. Je prends simplement une illustration. Vous rappelez la formule selon laquelle la bien-aimée donc dit que le bien-aimé repose comme un sachet de nard, de parfum entre ses seins. Le grand exégète juif du Moyen-Âge, Rashi, dit « c'est la gloire de Dieu entre les deux chérubins ». C'est de l'âge. Saint Cyril d'Alexandrie dit « c'est le Christ entre les deux testaments ». Et Saint Bernard de Clairvaux dit « c'est le Christ entre les deux brigands crucifiés à sa droite et à sa gauche ». Vous vous rendez compte, vous voyez, c'est vraiment n'importe quoi. Donc je ne pense pas qu'on puisse maintenir cette exégèse. Et alors j'ai trouvé un argument de plus sur un point que je vais reprendre tout à l'heure. Dans le Cantique des Cantiques, celle qui crève l'écran, c'est la femme. C'est elle qui prend les initiatives, c'est elle dont les discours sont les plus originaux, les plus puissants, c'est la femme. Alors ça ne peut pas jouer allégoriquement dans le cas de Dieu et d'Israël, du Christ et de l'Église. Non, 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 c'est pas l'Église qui peut prétendre à un tel rôle. Donc rien que cela pourrait, me semble-t-il, nous détourner de l'exégèse allégorique qui, je crois, n'a pas de soutien dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et le vrai point de contact, c'est le texte de Proverbe 5 que nous avons lu donc en introduction. C'est ce même langage. Il s'agit d'un discours de sagesse qui exalte le don de Dieu dans l'amour de l'homme et de la femme. Et à propos du mariage, dans le mémoire de Cédric Eugène, j'ai d'ailleurs trouvé référence à une thèse intéressante. Il y a au moins un article, alors je n'ai pas lu l'article, mais j'ai vu ce qu'en dit Cédric Eugène, un auteur qui plaide que de même que le texte de Proverbe 5 est la vie d'un homme pour les jeunes gens, une exhortation aux jeunes gens, le Cantique des Cantiques est une exhortation aux jeunes filles. Ça me paraît éventuellement plausible. Vous voyez l'intérêt de cette remarque. Alors c'est un écrit de sagesse. Et je suis de plus en plus persuadé de l'extrême subtilité des auteurs qu'on dit sapientiaux, c'est-à-dire de sagesse, de la littérature de sagesse dans l'Ancien Orient et dans l'Ancien Testament en particulier. Ils usent de manière raffinée de l'art de la suggestion l'art d'éveiller des pensées sans le dire en clair, par des allusions, par des façons détournées, c'est très très habilement ficelé. Alors, les auteurs libéraux, souvent, montrent une arrogance stupide parce qu'ils ne comprennent pas, ils corrigent le texte. Ils s'estiment capables de corriger le texte. Les auteurs orthodoxes ou évangéliques, eux, dans un sens, ils ont été également myopes par rapport à la subtilité des auteurs, en allégorisant, en transposant tout de suite dans les vérités de l'Évangile sur le rapport du Christ et de l'Église. Donc, je pense que dans des deux côtés, avec des motivations très différentes, il y a aussi une méconnaissance de cette subtilité. Alors, je vais donner quelques exemples de cette subtilité dans la rédaction du Cantique des Cantiques, qui va nous préparer pour la suite de l'étude. Il y a l'absence de toute mention expresse de Dieu, sauf une ambiguïté. Je pense que c'est une ambiguïté délibérée et calculée. Alors d'abord, l'absence du nom de Dieu. Je crois qu'il y a plusieurs ouvrages de l'Écriture qui nous montrent qu'il y a une façon de proclamer les choses par le négatif. Vous avez une photo en négatif. Maintenant, ça ne se fait plus tellement, c'était l'argentique. Hein. Mais vous aviez toute la scène, mais le blanc était noir et le noir était blanc. Au fond, dans la gravure, quand vous gravez quelque chose, vous enlevez de la matière. Mais c'est en enlevant de la matière, en faisant du vide, que vous proclamez le message. Eh bien, je pense que c'est une technique qui est employée dans certains livres de l'Écriture. Dans le livre d'Esther, par exemple, le nom de Dieu n'est pas là, mais il est là. Et quiconque comprend le livre comprend qu'au contraire, ce silence est une façon de proclamer que tout ce qui arrive, d'une manière qui n'est pas évidente au premier regard, mais est conduit par Dieu. Eh bien, je pense que de même, l'absence du nom de Dieu dans le Cantique des Cantiques est là pour proclamer que cet amour qui est célébré est le don de Dieu. Alors, c'est dit, mais je vous ai dit, de façon ambiguë. Au chapitre 8 et au verset 6, il est dit de l'amour que les grandes eaux, les déluges ne peuvent éteindre, est une flamme. Alors, dans nos traductions les plus habituelles, et en un sens, elles ont raison, mais lève l'ambiguïté. Une flamme de l'Éternel, une flamme de Yahvé, de Yah. Mais ce n'est pas le nom Yahvé, c'est son abréviation qui existe dans pas mal de textes de l'Ancien Testament, surtout poétiques, qui existe dans Alléluia. Le Yah de Alléluia, c'est le nom de l'Éternel, Yahvé, le Seigneur. Utilisé comme suffixe en quelque sorte après l'impératif Hallelu, c'est-à-dire louer. Ici, c'est aussi le simple nom Yah, après un mot qui signifie la flamme. Mais ça pourrait être pris, c'est là l'ambiguïté, aussi pour un simple adjectif possessif. Et dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est comme ça que ça a été pris, donc on ne voit pas le nom Yahvé, on ne voit pas, le mot Seigneur n'est pas employé. Et il y a quelques passages, alors ils ne sont pas très nombreux dans l'Ancien Testament, où le mot de Dieu ou même de Yahvé peut être pris dans un sens superlatif. Dans le psaume, dans certains psaumes, vous avez par exemple montagne de Dieu, montagne de passant, montagne de Dieu. Et un certain nombre d'exégètes disent que ça n'a pas de sens plus particulier que le sens de grande montagne célèbre. Vous voyez l'ambiguïté? La présence de ce « ya » avec la flamme, ça pourrait être pris simplement, vous voyez, comme un superlatif. Une flamme particulièrement ardente, brûlante. Vous voyez. Je crois que c'est délibéré. Je crois que comme... Cela correspond à Proverbe 5. Il s'agit de célébrer, selon la sagesse que Dieu permet de cultiver, le don de Dieu. Mais cela est dit de cette manière indirecte, qui invite à la réflexion, qui permet de pousser plus avant. Ça, c'est une première marque de subtilité. Il y a la surabondance des images et tout ce qu'elles évoquent, et en particulier de toutes les mentions géographiques. Si vous avez lu le Cantique des Cantiques récemment, vous vous rappelez qu'il y a des kyrielles, je n'ai pas fait le compte, mais il y a, je pense, au moins une trentaine de noms de lieux divers. Mais à quoi ça correspond? Je crois que c'est très subtil. Parfois, c'est l'étymologie du nom du lieu, simplement. C'est la suggestion que l'étymologie du terme peut impliquer. Parfois, c'est des souvenirs historiques associés à ce lieu. Parfois, c'est simplement le paysage qu'on y trouve, etc. Voilà. Vous avez donc aussi cette diversité-là qui joue, cette subtilité. Et puis, il y a des déformations légères et délibérées de nouveau, hein, c'est très très calculé, de mots pour suggérer autre chose en même temps que la chose qui est dite. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais je signale que j'ai voulu imiter un petit peu la chose en donnant pour titre à l'étude d'aujourd'hui « Des clés du champ ». Oui, j'ai voulu déformer la formule « la clé des champs » que vous connaissez. Vous voyez. Ben c'est ce genre de choses, beaucoup plus subtiles, mais qu'on trouve aussi dans le Cantique des Cantiques. Alors, il y a d'abord le nom de la femme, de la jeune mariée, comme je vais souligner que c'est une mariée. Mais il y a son nom qui est Shulamit dans un passage au chapitre 7, verset 1er. Ce nom correspond à l'évidence à Shlomo, qui est la forme hébraïque de Salomon, hein, Shlomo. Shlomo, Shulamit, c'est deux termes qui se correspondent comme... Dans le récit de la Genèse, l'homme et la femme, l'homme s'écrit lorsque Dieu lui conduit la femme près de lui, elle sera appelée Isha, car elle a été prise de Ish. Jeu de mots. Nous avons un jeu de mots en quelque sorte comparable à Shlomo, auquel est assimilé le jeune marié, correspond Shulamit. Mais Shulamit, c'est très proche de Shunamit, avec un N au lieu du L là. Et certains se demandent même s'il n'existait pas deux formes de ce nom de bourgade à l'ouest de Jérusalem, Shunem ou Shulem. En tout cas, la forme habituelle est Shunem, Shunamit. Il y a tout un souvenir historique qui s'y rapporte. Au second livre des rois, au chapitre 1er, au premier livre des rois, au chapitre 1er, il nous est rapporté que David, devenu vieux, bon, c'était un peu plus de 60 ans d'après d'autres données, hein, mais n'arrivait plus à se réchauffer, manque de chaleur vitale, et qu'on a décidé de chercher la plus belle fille du royaume pour la faire coucher avec lui. Ouais, qu'elle repose sur son sein, ça veut dire... qui couchaient ensemble, pour essayer de leur animer un peu de chaleur chez ce vieux roi, avec peut-être aussi cette idée qui était très présente dans tout l'Ancien Orient, à savoir que la puissance sexuelle était quand même la prérogative du roi. Un roi tenait son prestige en particulier pour cette raison. Alors, ça n'a pas marché. Il n'a pas pris cette jeune fille comme épouse supplémentaire, parce qu'il y en avait eu un certain nombre, David. Elle venait de Shunem, c'était la Shunamite. Oui. Elle s'appelait Abishag. Et l'histoire continue. Adonija, un des fils aîné par rapport à Salomon, du roi David, a demandé à Bathsheba, la mère de Salomon, qui donc avait été introduit dans le trône, de lui donner Abishag pour femme. Et alors, naïvement, Bathsheba a dit, ben oui, pourquoi pas, Adonija dit, j'accepte que ce soit mon frère, normalement ça aurait été moi, mais que ce soit mon frère qui soit roi, mais donnez-moi Abishag. Mais Salomon, dès qu'il a appris ça, a tout de suite vu la manœuvre politique. Parce que le fait pour un successeur d'avoir une femme qui avait été, au moins avec, dans le lit du roi défunt, c'était comme réclamer la succession, comme se prétendre le vrai successeur du roi. Et finalement, Adonija a payé de sa vie cette audace, mais qui avait un sens politique. Qu'est devenu Abishag ? Ah, ce n'est pas dit dans le livre des rois. Mais vous voyez, c'était la Shunamite, la plus belle fille du pays, etc. Et avec un rapport à Salomon. Est-ce que Salomon l'a épousé, lui, ensuite ? C'est pas exclu, mais c'est pas dit non plus. Vous voyez cet art de subtilité que nous avons dans simplement l'usage de ce nom, Shulamite, pour la mariée, dans le Cantique des Cantiques. L'autre exemple que je prendrai est celui de l'adjuration. Au chapitre 2, verset 7, et c'est répété au chapitre 3, verset 5, par les gazelles et les biches de la campagne. Ne réveillez pas l'amour, etc. En hébreu, cette formulation est très très proche d'une formulation d'adjuration par les noms de divinité. Ça peut se comprendre. Le premier mot, qu'on traduit très justement les gazelles, c'est le même mot qui intervient dans le nom de Dieu, l'Éternel des armées célestes. Donc ça évoque un nom de Dieu. Et en tout cas, les armées célestes, tous les anges, etc. Et puis le deuxième mot est très très proche en hébreu, les biches, du nom pour les divinités de la campagne. Et la vieille traduction grecque faite par des juifs avant le temps du christianisme semble avoir bien saisi cette signification, ou moins cette connotation, par les puissances et les forces de la campagne. Les formules d'adjuration, c'est très proche du serment, s'appuyaient sur des noms divins, en général. Donc nous avons une parodie des formules d'adjuration qui évoquaient toutes les divinités de la nature alentour. Alors je reviendrai sur le sens que nous pouvons donner à cette parodie, mais elle suffit à vous faire prendre conscience, je crois, de l'extrême subtilité de l'auteur de ce cantique. Alors cette subtilité, elle se marque aussi dans la structure à laquelle j'arrive. La structure est une structure qu'on retrouve dans pas mal d'ouvrages de nouveaux bibliques, c'était assez goûté. Par exemple, la deuxième partie de Zacharie, j'étais très très reconnaissant, ou l'Épître aux Hébreux. C'est une structure de symétrie concentrique, avec la première partie et la dernière partie qui se répondent, la deuxième et l'avant-dernière, etc. Comme ça, ce qui met en valeur la partie centrale. Et c'est la structure que finalement, nombre d'auteurs ont cru pouvoir découvrir et mettre en valeur dans le Cantique des Cantiques, et Cédric Eugène est arrivé en reprenant toutes les propositions, en faisant une synthèse, et je pense qu'on peut le suivre. La délimitation exacte des unités n'est pas toujours évidente, et donc les spécialistes peuvent en différer quelque peu, mais en gros, nous avons cette structure pour le cantique. La partie A,
premier lieu, la partie A' en deuxième lieu. La partie B, ensuite, la partie B', comme ça. Et puis, pour C, ça se complique un peu, mais ça fait partie, je crois, aussi de la subtilité dans la construction. Là, il n'y a pas de symétrie vraiment, mais il y a une correspondance. Il y a C1, 2, 3, et il y a C1, 1, 2, 3. Et puis alors, vous avez là la partie centrale, vous pouvez la plier si vous voulez, la partie centrale qui est tout à fait délimitée. Alors, quels sont les versets qui correspondent? Je vous indique. Alors, je ne prends pas cette formule linéaire, mais je vous indique donc les références. La partie A, c'est 1, 2 jusqu'à 2, 7. Et la partie A', alors, c'est la partie 8, 3 à 14. Quels sont les éléments qui nous permettent de reconnaître clairement c'est la correspondance de ces éléments? C'est pas une simple répétition, hein, mais il y a plusieurs éléments communs qui nous permettent de discerner la structure. Il y a le thème de la vigne. La vigne, c'est à peu près de manière certaine le corps de la femme, et peut-être même plus spécialement le sexe de la femme. C'est cela dans pas mal de textes de l'Orient Seul et jusque dans une expression hébraïque plus récente, paraît-il. Donc c'est ce thème de la vigne qui se trouve très, très, très apparente dans le premier morceau et dans le dernier. Il revient aussi assez clairement. Il y a les frères. Les frères de la femme, de la bien-aimée de. Et qui sont là mentionnés au début et à la fin. Et il y a les compagnons du bien-aimé aussi. Voilà, ça fait plusieurs éléments qui permettent de discerner cette correspondance à A'. Alors B, c'est 2, 8, 17. Et B', c'est 7, 11 à 8, 2. Là, les correspondances sont un tout peu moins marquées, un peu moins évidentes, mais quand même, c'est la fête de la nature. Toutes les fleurs, c'est le printemps, c'est tous les parfums, voilà. Vous avez ce thème-là qui est spécialement mis en valeur dans la partie B. C'est alors C. Alors C1 et C'1. C1, c'est 3, 1 à 5. Et C'1, c'est 5, 2 à 8. Et parce que là, vous n'avez plus la symétrie, mais ça prend de la correspondance. Dans les deux cas, c'est le rêve. C'est un rêve. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'ai eu le rêve. Les rêves de la bien-aimée. En C1 et en C1, dans ces deux passages-là. Ensuite, pour 2, c'est 2, c'est 3, 6 à 11, et c'est 5, 9 à 6, 3. Voilà, j'ai demandé d'avoir un tableau et monsieur Zurcher très aimablement a fait en sorte que j'ai bien ce tableau pour vous montrer cela. Là, c'est un discours qui célèbre la beauté du bien-aimé. Beauté à divers titres, aussi sociale, la procession, son char, etc. Son corps davantage au chapitre 5. Mais, c'est un chant donc de célébration de la beauté du bien-aimé. Et 3, c'est 3. C'est 4, 1, 15. Et c'est 6-4, 7-10. Et là, c'est une célébration de la bien-aimée. C'est parallèle, si vous voulez, mais cette fois, c'est deux chants qui décrivent la bien-aimée avec de nombreux éléments, d'ailleurs, qui sont semblables avec sa chevelure, sa denture parfaite, etc. Oui. Avec des différentes images qui ruissellent à ce propos. Oui. Et puis, alors, entre les deux, vous avez donc la partie centrale, la partie, donc, de 4, 16 à 5, 1, qui est à l'évidence la consommation du mariage. La virginité de la jeune mariée est évoquée, virginité qui est représentée comme un jardin clos, la source scellée, et puis elle invite le bien-aimé à entrer, et il entre, il dit « j'entre dans mon jardin », et donc c'est la consommation du mariage, et c'est d'ailleurs dans cette partie, et dans cette partie seulement, que 6 fois, 2 fois 3, elle est dénommée « jeune mariée », Kallah en hébreu, d'une manière vraiment que je m'explique hier, peut-être l'influence de Louis II, je ne sais pas, pratiquement toutes les versions françaises, sauf la Nouvelle Bible Seconde, heureusement, ont fiancé comme traduction. Mais le mot ne veut pas dire fiancé, il y a un autre mot en hébreu pour dire fiancé, c'est la jeune mariée. Alors la Bible du Semeur a bien une note où la note est tout à fait correcte et dit que c'est la jeune mariée, juste avant le mariage et juste après, voilà, c'est la mariée, comme l'a dit la Bible Seconde. La note dans la Bible du Semeur le dit bien, mais le mot fiancé a été gardé dans le texte. Mais c'est une particularité des versions françaises. J'ai chez moi, je pense, 6 ou 7 versions anglaises, je les ai regardées toutes ont bride, qui veut dire la mariée en anglais, c'est pas le moindre doute, c'est le sens du mot. Et le mot grec, d'ailleurs, a correspondu aussi dans la traduction des Septante du Cantique des Cantiques, c'est ce mot pour la mariée. Il n'y a pas le moindre doute à cet égard. Et c'est la célébration de l'union du mariage qui se trouve ici centrale. Alors, cette disposition concentrique crée un problème. Et c'est là, à propos de ce problème, que je suis spécialement reconnaissant pour ma part à Cédric Eugène. On a l'impression quand même qu'il y a une continuité là. Et donc, si l'union conjugale a lieu à la nuit de noces en D, ensuite, c'est après le mariage. Mais il y a des passages qui paraissent vraiment difficiles à interpréter de cette façon, parce qu'elle dit par exemple « Connais-tu mon frère? Je pourrais t'emmener dans la maison de ma mère, etc. » Je dis « Mais si c'est son mari, il n'y a plus de problème. » Vous voyez, donc on est étonné par cet élément-là. Et il y en a quelques autres. Et ce que Cédric Eugène a montré, c'est que dans ces structures concentriques, en fait, il n'y a pas de progression linéaire, forcément, en tout cas. On peut considérer que ce qui est dans la structure du livre ensuite n'est pas considéré comme chronologiquement antérieur, mais peut aussi concerner ce qui est antérieur. Ce n'est pas postérieur, c'est antérieur. Ça peut être antérieur en tout cas. Et il m'a convaincu sur un point précis. Au chapitre 8, il est question de « Nous avons une petite sœur qui n'est pas encore formée, mais il s'agit de qu'elle maintienne la discipline, qu'elle ne soit pas une porte qui s'ouvre à n'importe quel dragueur, mais qu'elle sache se tenir, préserver sa vie. » Et la bien-aimée du Cantique des Cantiques dit « Je n'ai pas été une porte,
J'étais un mur solide avec mes 50 détours. J'ai bien résisté à toute avance qui n'était pas acceptable, etc. Voilà. Alors, moi, je prenais ça avec la pensée d'une progression linéaire en disant c'est une petite sœur de la bien-aimée. Mais ce que la remarque de Cédric Eugène, qui s'appuie sur d'autres auteurs, m'a fait discerner, c'est qu'un non, ce sont les frères qui parlent de la bien-aimée. Et le nous l'implique nécessairement. Si c'était la bien-aimée qui parlait de sa petite sœur, elle parlerait au singulier, elle parle toujours au singulier. Et donc, ce sont les frères. Donc, on reprend ce qui était au chapitre, dans la première partie, au chapitre premier, sur les frères et la manière dont ils traitent leur sœur. C'est une reprise, tout à la fin, de ce qui était aussi au début. Cela dit, j'ai quand même un peu de mal, alors c'est plus que tort, hein. J'ai un peu de mal à renoncer tout à fait à l'idée d'une progression linéaire, à l'idée que, quand même, il y a quelque chose pour ce qui suit l'union maritale. Et je pense que je peux quand même risquer cette pensée qu'une des suggestions du livre, c'est que ce qui se passe avant le mariage continue d'avoir sa contrepartie après. Il y a des tensions, il y a des obstacles, il y a des choses avec lesquelles il faut compter. Je crois qu'un des thèmes importants dans l'ensemble du livre, c'est qu'il y a des exigences de la vie en société qui rendent parfois difficile la pleine liberté du couple dans son union, et qu'il faut savoir gérer ces choses. Il y a aussi le problème des compagnons, que les amitiés, en particulier de l'homme, peuvent interférer avec la bonne santé du couple. Il me semble que cela peut être aussi un élément, un enseignement secondaire de l'ensemble du livre. Et il y a d'ailleurs une très belle phrase d'un théologien de Neuchâtel, Jean-Jacques von Almen, qui compare avec précisément Genèse 2. Dans Genèse 2, il n'y a aucun obstacle. Ish et Isha, c'est la parfaite harmonie. Ils étaient tous les deux nus, ils n'avaient pas honte. Rien ne vient gêner avant la chute. Dans le Cantique des Cantiques, ce n'est pas comme ça. Vous voyez, il y a des négligences, il y a ce cauchemar qu'elle fait, etc. Voilà. Il y a des problèmes qu'il faut résoudre, ça fait partie, et ça ne cesse pas par miracle le jour du mariage. Après le mariage, il faut aussi savoir gérer ces choses. Voilà. C'est peut-être un enseignement qu'on peut trouver, mais ayant présenté ces éléments qui sont reliés à la structure, j'en viens maintenant aux trois remarques que je crois intéressantes pour vous, enfin vous en jugerez, hein. Trois remarques particulières et qui sont, je pense, quand même relativement originales de ma part. En tout cas, ce n'est pas ce que vous trouverez dans un très grand nombre de commentaires ou d'ouvrages. Je pense qu'elles pourraient même vous surprendre. Premier point, la promotion de la féminité. Alors j'en ai déjà dit un mot, je reprends cet élément sur le fait que c'est la femme qui crève l'écran dans le Cantique des Cantiques. Mais il y a deux faits qui me semblent s'ajouter à cette impression que j'exprime et qui correspondent à une promotion de la femme. Il est hautement probable que l'auteur est une femme, que c'est une autrice. Ne dites pas auteur, c'est un barbarisme horrible en français, et l'Académie française a d'ailleurs condamné, mais malheureusement on trouve ça partout. Mais, bon, on peut dire autrice, si on veut. C'est une autrice qui écrit. Alors, je dois ce discernement à André Lacocque, un Belge qui est devenu professeur à l'Université de Chicago, et qui a écrit, et qui s'appuie sur ces données du Moyen-Orient ancien, ces données donc du contexte de l'époque biblique. Précisément, ces poèmes que l'on disait chantaient lors des fêtes nuptiales, et c'était généralement des femmes. C'était là la coutume. Donc les affinités du Cantique des Cantiques avec ces poèmes suggèrent que c'est aussi une femme qui a pu écrire. Et je pense qu'il y a des traces dans l'Ancien Testament d'une activité de sagesse particulièrement des femmes. Ça n'a pas été assez remarqué, je crois. Mais lorsque Joab, le général Joab, veut suggérer à David de faire revenir Absalom qu'il a renvoyé, il va chercher une avocate, pas un avocat, une femme sage qui va venir plaider la cause, vous voyez. C'est comme une institution des femmes. Et un peu plus loin dans le livre des rois, dans le livre de Samuel plutôt, de Samuel, il est question d'une femme sage de nouveau qui a sauvé la ville lors d'une révolte. Nous avons donc des indications qui montrent qu'il y avait une participation privilégiée des femmes à l'activité de sagesse en Israël. Alors, mis avec cette promotion de la féminité dans la texture même du cantique, je suggère que c'est une thèse qui vraiment peut être reçue. Ce livre-là, au moins, serait un livre écrit par une femme inspirée par Dieu dans la catégorie sapientiale. Et puis, deuxième le fait, la mère est nommée 7 fois dans le livre des Cantiques des Cantiques. C'est assez souvent. Le père, pas une seule fois, dans une culture qu'on dit patriarcale. C'est quand même assez frappant. Et la mère en particulier, au chapitre 8, verset 5, quand nous avons « Je t'ai réveillé sous le pommier, là où ta mère t'a enfanté. » Que vient marquer cette insistance sur le lieu de naissance avec l'accouchement par la mère, la gestation et l'accouchement par la mère. Je crois que c'est parlant, que ça fait partie du message aussi. Alors que signifie cette référence à la mère répétée, et en particulier au chapitre 8, verset 5 ? Il me semble que c'est la continuité des générations. C'est l'axe vertical de la vie transmise. Par le mariage, ceux qui étaient des enfants s'insèrent dans cette chaîne et en constituent un maillon supplémentaire. C'est une perspective importante dans la Bible. Notre individualisme moderne l'ignore trop, mais s'il y a des généalogies à plusieurs endroits, elle nous fatigue parfois à la lecture, mais s'il y a des généalogies, et même pour le Seigneur Jésus, s'il y a des généalogies, c'est que cette continuité des générations est importante. Alors, certaines générations, civilisation patriarcale, du point de vue du droit, c'est par le père que se transmettent les propriétés, etc. Donc, nos généalogies habituelles sont par le père. Mais quand même, dans le cas de Jésus, il y a 4 femmes remarquables qui sont mises en valeur, et puis il y a Marie. Donc, on ne peut pas nier que la transmission de la vie, ce soit d'abord l'affaire de la femme, ce rôle de la maternité. Donc, il me semble que nous avons une valorisation, vous voyez, du rôle maternel auquel, normalement, le mariage donne existence, sur laquelle le mariage débouche, vous voyez. Ça c'est, semble-t-il, une leçon. Il n'y a pas seulement celle-là, mais peut-être. Là, je me réfère un peu à la psychanalyse. Il me semble qu'on peut dire que le complexe d'Édipe où l'enfant masculin est le rival de son père, à la fois il veut l'imiter, mais il veut le supprimer aussi pour prendre sa place, ce complexe d'Œdipe se résout par le mariage du fils. Là, il devient lui-même un homme. Il n'est plus d'abord fils d'homme, il est un homme. Un homme et sa femme, il est fait femme, de fille, elle est faite femme, d'après le langage qui nous était courant. Et il me semble que cela aussi, cela correspond à cet accent sur la mère dans cette continuité des générations. Alors, le cadre de la loi que représente le père en psychanalyse, le cadre de la loi n'est pas éliminé pour autant, mais il est représenté par les frères. C'est assez intéressant à noter. Dans le Cantique des Cantiques, il est là, ce sont les frères qui font observer la discipline. Alors, ils ne sont pas très sympathiques par moment, mais ils jouent quand même un rôle important. Et la femme dit qu'ils reçoivent leur part quand même. Les 1000 cycles d'argent, c'est pour le propriétaire de la vigne, c'est pour toi, Salomon, je suis à toi. Ma vigne, elle est en moi, j'en dispose et je te la donne. Et donc, les 1000 du propriétaire, c'est à toi. Mais quand même, il y a 200 pour les gardiens. Tiens compte du service qu'ont rendu mes frères. Vous voyez, là aussi, subtilité de l'auteur. Ce rôle disciplinaire que jouent les frères dans le récit marque la nécessité, malgré le frein que cela constitue par rapport à la liberté de l'amour pour les jeunes mariés. C'est une nécessité dans ce monde. Ça, c'est le premier thème, vous voyez, que j'approfondis un peu avec vous par rapport à ce que j'avais pu en dire antérieurement. Deuxièmement, l'association à la nature, en fait. Il y a une surabondance de références à la faune et à la flore, aux parfums, aux fruits, au vent, à l'eau jaillissante. C'est vraiment une fête de la nature, avec la mention dès le début du printemps, le temps des amours. Il me semble qu'on peut dire que c'est le propre de l'amour au sens érotique même, de l'union sexuelle, d'exalter la sensibilité à la nature. Je crois qu'on a pu dire que tout amoureux est un peu poète, hein, parce que voilà, il sent la nature à la manière des poètes. Ce qui est le propre de l'amour de l'homme et de la femme dans l'écriture, c'est d'unir le corps et le cœur, le sensuel et le spirituel à la fois. C'est pour ça que Paul dit que tout autre péché que l'adultère ou la prostitution, tout autre péché hors du corps, mais celui qui pêche dans ce domaine pêche contre son propre corps, parce qu'il y a une union du corporel et du spirituel qui est unique dans l'expérience de cet amour, une compénétration unique. Et peut-être que c'est aussi en faveur de cette thèse que les deux sens qui sont privilégiés dans le Cantique des Cantiques sont les sens les plus fusionnels, l'odorat et le goût. C'est fou l'importance des parfums tout au long et ces images olfactives, je crois, correspondent précisément à cette union tellement plus étroite que dans tout autre domaine. Et donc nous avons, me semble-t-il, là un thème important qui s'associe à la féminité. J'ai écrit autrefois un petit article sous le titre en latin, mais il se comprend facilement en français, Natura Femina. Il y a, me semble-t-il, un certain lien, au moins symbolique, entre la féminité et la nature, la vie. Car la nature, c'est est très très proche de la vie au sens le plus général. Le nom d'Ève, Ève, parce qu'elle est la mère de tout vivant, Hawa, Chawa en hébreu, hein, le mot a donné Ève en français par transcription qui a changé beaucoup les sons, mais Chawa, c'est celle qui donne la vie, Raya. C'est une association étroite. Et dans le psaume 139, la gestation est évoquée quand tu étais brodé dans le sein maternel, tissé dans les profondeurs de la terre. La mère, d'après ce verset du psaume 139, correspond à la terre, voyez. Donc nous avons cette fête de la nature à laquelle fait participer l'amour entre l'homme et la femme. Alors ça n'exclut pas la culture, parce que ça n'exclut pas le spirituel, c'est au contraire l'union étroite. Et donc, il y a des références culturelles aussi. Tous ces souvenirs historiques, toutes ces villes qui sont mentionnées, c'est spécialement l'homme, oui. Ça correspond davantage à ce qui est la connotation de la masculinité. Si vous voyez dans le Cantique des Cantiques, presque toutes ces métaphores, ces évocations qui impliquent plutôt le monde culturel, c'est l'homme qui les évoque. Alors que la femme, elle, évoque davantage des images de la nature. Mais c'est l'interpénétration des deux. Et d'ailleurs, les parfums même. Les parfums, c'est à la fois les parfums des fleurs, de tout ce qui se dégage dans la campagne en fête, et les aromates. On dirait qu'elle est vraiment couverte de parfums, la bien-aimée, d'après les descriptions. Mais il me semble que c'est une indication en faveur de ce thème de l'union de la nature et de la culture, et du corps et de l'intelligence, etc. Et je pense que l'image guerrière, terrible comme des troupes sous leur bannière, est là pour nous rappeler qu'il ne s'agit pas simplement du fait naturel, comme chez les animaux. L'homme a en commun avec les animaux, mais il a aussi beaucoup qui le distingue et qui se révèle en union avec le naturel dans l'amour de l'homme et de la femme, qui est célébré comme le don de Dieu dans le livre. S'il y a cette métaphore guerrière, ce n'est pas, je crois, de l'agressivité, mais c'est le jeu amoureux, le jeu, la lutte amoureuse. Ça fait partie, parce qu'il ne s'agit pas simplement de rute animale, il s'agit d'une alliance des libertés, d'un face-à-face des libertés qui font alliance, mais avec tout leur être et toutes ses composantes naturelles aussi. Et alors je pense que l'adjuration par les gazelles et les biches des champs, qui parodie l'adjuration païenne des divinités de la campagne, et là aussi pour nous donner un enseignement. Ces forces de la nature qui sont idolâtrées par le paganisme, alors elles peuvent être incluses à leur rang dans le don de Dieu. Il ne s'agit pas d'être simplement antinaturel, mais il s'agit de ne pas tomber dans cette idolâtrie qui pervertit le sens de ce que Dieu accorde. Vous voyez ce qui me semble un deuxième grand enseignement sur l'association à la nature. Et puis la troisième, oui, j'aurais juste le temps de vous le présenter, c'est la célébration de la passion comme telle. Passion vient du verbe pâtir, hein, subir. Et c'est la même racine que passivité. La passion est en grande partie subie, et c'est ainsi qu'apparaît l'amour dans le Cantique des Cantiques. C'est une force qui subjugue, et ce qui est l'expérience amoureuse, d'après le témoignage de plusieurs, est exprimé dans le Cantique par une formule dont je me demande si c'est la première fois qu'elle a été employée, je ne sais pas. Là, je n'ai pas vu dans aucun commentaire, je ne me rappelle une mention. Je suis malade d'amour. Voilà ce que dit l'amoureuse, chapitre 2, verset 5. Et elle le répète encore au chapitre 5, verset 8. Et le bien-aimé dit, tu me ravis le cœur. Et à l'image du vin, enivrez-vous, ces caresses valent mieux que le vin. C'est là aussi un thème très très important. Et ça se rattache au texte de Proverbe 5. Grise, soit toujours grisé par ses caresses. En fait, c'est un mot qui est employé en général dans l'Ancien Testament en mauvaise part pour l'égarement. Qui connaît ces égarements au psaume 19, c'est la même racine qui est employée en Proverbe 5, là, de manière positive, pour cette ivresse qui est subie, une ivresse. On perd le contrôle, en quelque sorte, dans l'ivresse. Alors, je trouve très intéressant de remarquer ça, en considérant que ce n'est pas une interprétation allégorique qu'il faut donner du livre, que c'est une célébration inspirée par Dieu de l'amour, parce que la tradition chrétienne n'a pas été dans ce sens. La tradition, dont nous sommes héritiers aussi, a prôné le contrôle de soi, la discipline, voire l'ascèse. Et saint Augustin voyait un signe de la déchéance du monde pécheur dans toute la part d'involontaire de l'amour physique. Et c'est un thème qui est important chez saint Augustin. J'ai finalement l'impression que ça vient davantage du stoïcisme, de cette philosophie grecque stoïcienne qui mettait tout l'accent sur la volonté de se dominer soi-même. Ce que la Bible nous dit, c'est qu'il n'y a pas de maîtrise absolue. Nous sommes agis par Dieu avant d'agir nous-mêmes. C'est d'abord la grâce. La grâce est subie. Nous la recevons. Le caractère involontaire de la passion amoureuse est une valeur. Voilà, me semble-t-il, ce que le Cantique des Cantiques nous dit. Nous n'avons pas à être les premiers, les derniers de notre vie, à tout maîtriser. Dans l'amour de l'homme et de la femme, il y a une part de passion, passivité, qui est une excellence, qui est la marque du don de Dieu, la marque du fait que nous sommes d'abord au bénéfice de son action en nous, que nous subissons pour notre bien. Vous voyez le sens que je crois pouvoir donner à cet accent sur la maladie de l'amour, qui est une beauté suprême du don de Dieu. Alors, attention, bien sûr, il ne s'agit pas d'être, selon la métaphore du chapitre 8, une porte, de se laisser emporter par n'importe quoi. C'est un subtil équilibre. Et dans le cantique, précisément, c'est dans le cadre du mariage, c'est le mot marié qui est employé dans cette partie centrale. Pas question d'en faire un éloge, comme certains l'ont fait, hein, mais de l'amour libre. Dit libre, en fait, c'est une fausse liberté. Et il y a les disciplines qui sont évoquées. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire, mais en développant plus généralement, je dirais, la maîtrise de soi est le fruit de l'esprit, d'après Galates 5. Alors, ça veut dire que, oui, il y a une maîtrise de soi qu'il faut acquérir, mais finalement, c'est un fruit de l'esprit. Chacun n'est pas le maître absolu de soi, c'est quand Dieu nous maîtrise que nous sommes capables d'insérer dans notre vie une discipline suffisante. Et c'est probablement, d'après la majorité des commentateurs, bien que ce soit discuté, hein, probablement le sens de l'avertissement, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ou avant qu'il le veuille, parce que le mot amour est féminin en hébreu, donc c'est probablement avant le temps opportun pour l'amour. cette passion, cette maladie d'amour, c'est merveilleux. Et c'est un don de Dieu. Mais attention, pas n'importe comment, dans le cadre qu'il a pourvu, dans le temps auquel il conduit. Et c'est dans ce sens que le livre serait un avertissement aux jeunes filles. Oui. Plus spécialement, un livre de sagesse pour leur dire attention, ne vous laissez pas entraîner n'importe comment, par n'importe qui, par les petits renards, probablement ça veut dire les dragueurs. C'est plusieurs commentateurs disent cela. Voyez. Donc, voilà l'équilibre que ce livre de sagesse inspirée de Dieu nous propose. Voilà ce que j'avais à cœur de vous communiquer aujourd'hui sur ce livre pour lequel je suis très reconnaissant. Voilà, alors, j'aurais aimé vous laisser du temps pour des questions, mais c'est juste maintenant l'heure de la réunion de prière qui a lieu ici même. Hein. Donc je pense qu'il vaut mieux ne dire que nous arrêtons notre séance ici. Mais si jamais il y a des questions irrépressibles que vous souhaitez poser, vous pouvez le faire en particulier, mais vous pouvez aussi les réserver pour la fois prochaine. On pourrait avoir quelques minutes au début de la fois prochaine pour des questions.